Bonjour Zineb.
Bonjour Rosanna.
Tout d'abord, je te remercie de ta présence aujourd'hui pour cet entretien dans le cadre de notre collectif Sorocity. Je voulais juste te préciser de vraiment prendre ton temps. Il n'y a pas de temps limite et surtout d'essayer de répondre très librement. Donc, sens-toi très libre dans tes réponses. Donc, la thématique principale ici, c'est essayer de comprendre ton histoire personnelle avec l'art. Et je vais donc te poser toute une série de questions autour de cette relation que tu entretiens depuis très longtemps donc, avec l'art. Bien. Alors, tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter sur base de ta carte d'identité, donc ton nom, prénom, ta situation familiale, si tu as des enfants, voilà un tout petit peu, en gros, sur base de ta carte d'identité.
Bonjour Rosanna, je me présente, je m'appelle Zineb Azmani Matar, je suis maman de 3 enfants. Je suis en même temps grand-mère de 3 petits-enfants également. Je suis née à Bruxelles, à Berkhem-Sainte-Agathe, en 1966. Donc, la Belgique, je la considère comme étant ma patrie. Rien ne m'est... comment vais-je dire ça inconnu ici. Je dirais que j'ai une double culture. Je suis musulmane, pratiquante. Et que veux-tu savoir d'autre? Comment je suis rentrée au niveau de l'art ou,
Oui, éventuellement, ça fera partie. D'abord, quelle est ta discipline artistique?
En fait, j'en ai plusieurs. J'ai fait mes études à l'Académie royale des beaux-arts, 3 ans en humanité et 4 ans d'études supérieures. J'étais en décoration et création textile. Et suite à ça, j'ai fait 6 ans, 7 ans à l'Académie de Molenbeek en cours du soir, où j'ai travaillé sur l'art du feu, c'est-à-dire la céramique. Donc, je travaille en même temps la terre. Et donc, je fais de la tapisserie, je fais de la peinture, je fais des collages, j'ai travaillé les aquarelles, j'ai travaillé la peinture sur tissu, donc la terre. Où j'ai pu exploiter la technique du raku, qui est une technique particulière. J'ai fait du théâtre également en tant que comédienne amateur. J'ai participé pendant plusieurs années avec un théâtre qui s'appelait le théâtre Tali. À ce moment-là, c'était un besoin pour moi parce que j'étais dans une crise au niveau de mon couple et c'était s'exprimer à travers le corps. Et la personne a même créé 2 personnages pour moi. J'ai joué le rôle de l'arlequin désarticulé. Et puis, j'ai joué un petit rôle de lutin suite à ma petite taille, un lutin artiste qui rentre sur scène. Et là, ça m'a beaucoup apporté au niveau de... avec mon corps. Mm-hmm. Parce que c'était du langage corporel. Et là, le métalangage, quand on voit le mime Masso, lui s'exprimait énormément avec son corps. Et le non-verbal exprime énormément, des fois même plus que le verbal. Mmh. Et donc, ça a été une période où je me suis libérée. J'avais des choses à exploiter par rapport à... Et puis par la suite, j'ai participé à un projet à la Maison des Cultures et de Cohésion Sociale, où il y avait un théâtre qui s'appelait le Théâtre à la Belge, où on s'exprimait dans les deux langues. C'était Mère Courage et ses enfants. Je leur ai dit que je ne voulais pas jouer le rôle de Mère Courage parce que je le jouais déjà dans la vie, parce que par la suite, j'ai divorcé entre-temps, et j'ai joué le rôle de l'enfant. Et là, j'ai pu aussi m'exprimer et je dois dire que je conserve cette part de l'enfance très fort en moi. Parce que l'enfance, c'est une part de l'innocence. Et puis, en même temps, les enfants, c'est la liberté. Et donc, je ne dirais pas que je suis une femme enfant, mais cette partie intérieure d'enfant est quelque chose que j'aimerais conserver toute ma vie. Souvent, on me dit que je ne fais pas mon âge. J'ai 57 ans.
Je
Enfin,
confirme.
je vais avoir 57 ans à la fin de ce mois-ci. Et donc, je suis une personne qui aime savourer très fort les instants présents. Parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait le lendemain. Donc, quand il y a des moments de joie ou des moments où je peux être complètement moi-même, et en général je suis une personne très entière. Donc quand j'ai quelque chose à dire, on le voit et je me sens bien avec moi-même, avec mon corps, avec qui je suis au niveau de ma personnalité. Et souvent, ben je le dis, c'est à prendre ou à laisser, mais je suis ce que je suis et je suis aussi une personne extrêmement ouverte. Je ne suis pas du tout la femme qui suis dans le jugement. Je prends en général un tout par rapport aux personnes que je rencontre. Au hasard de la vie, avec leurs qualités, leurs défauts. Ma philosophie est de. Allez, je vais dire peut-être que c'est ça qui a défini du fait que je suis rentrée dans les femmes prévoyantes socialistes, qui est devenue Soralia depuis peu. On essaye de s'engager dans la défense par rapport aux violences faites à l'égard des femmes, parce que c'est un combat qui restera et qui est toujours d'actualité actuellement. Donc je m'implique et je donne beaucoup alors de moi-même dans ces combats-là de vie. Parce que l'on soit femme, étant une femme qui suis issue d'origine marocaine et qui a vécu toute sa vie ici en Belgique, je me sens. Il y a eu un moment donné où on nous demandait d'être assis sur une chaise ou sur une autre. Ben, je me sens bien et dans l'une et dans l'autre. En fait, je me sens bien. J'ai trouvé mon équilibre dans cette société, quoi. De me sentir pleine et entière et de ne pas me définir soit plutôt dans l'un ou dans l'autre. Je pense que la richesse d'une société, c'est une société qui accepte de manière inclusive chacun, avec ses bagages, son histoire, et de permettre surtout aux femmes d'être ce qu'elles est, ce qu'elles sont, avec tout le parcours qu'elles ont vécu. Et donc, en général, quand je choisis des amis, parce que les amis, ça se choisit. J'aime les personnes en général qui sont tout comme moi, avec un esprit ouvert et peu importe de quelle origine ils sont, ça m'est complètement égal, mais je vais naturellement vers des personnes ouvertes d'esprit. Parce que quand on est artiste, on a ce sixième sens qui est développé. Et donc, quelquefois, on ressent très fort l'autre. Et donc, intuitivement, on laisse son instinct nous guider dans nos choix d'amis. Voilà, c'est.
Magnifique.
Je ne sais pas si je me suis suffisamment définie
Très, très bien.
dans ce que je suis, mais voilà.
En tout cas, un très bel exemple, je trouve, de femme inspirante, certainement. Et Zineb, je voulais te demander, parle-moi un peu de ton contexte familial, d'où te vient cet attrait pour l'art, cette sensibilité artistique. Est-ce que autour de toi ou même à l'école, un professeur qui t'aurait peut-être transmis cet amour de l'artistique, raconte-nous.
Déjà, je viens d'une famille très nombreuse. Nous sommes à la base 12 enfants, ce qui est déjà une mini-société. Parce que quand je veux dire, maman avait cet amour des enfants parce qu'elle a vécu toute sa vie en manque de sa propre maman. J'ai toujours entendu parler de ma grand-mère qui est décédée, que je n'ai jamais connue, vu que maman a perdu sa maman quand elle marchait à quatre pattes. Donc elle n'a pas eu connaissance de sa maman et a vécu de l'amour de son grand-père. Maman vient du nord du Maroc. Je suis d'origine berbère. Ils ont quitté le Rif dans les années, je dirais, 1920 par là. Il y a eu une année de famine et donc ils ont marché jusque Tanger, Tétouan, Ksar El Kébir. Et donc maman a été une femme qui a dû très vite se prendre en charge parce que à l'époque, quand mon grand-père a perdu son épouse, c'est-à-dire ma grand-mère, il a dû se marier avec sa sœur. Donc, maman a eu comme belle-mère sa tante et à qui, par la suite, je vais dire, mais très très longtemps après, quand un de mes frères lui a parlé pour lui demander pourquoi elle avait toujours fait une différence entre ses enfants et ceux de sa sœur, ma tante, paix à son âme, a exprimé le fait qu'on ne lui avait pas donné le choix. Donc, elle a dû élever, malgré elle, des enfants qui n'étaient pas les siens. Donc, de manière filiale, elle n'a pas su retransmettre cet amour aux enfants de sa sœur. La chance qu'a eue maman d'une certaine manière, c'est que son père l'aimait beaucoup et c'était une femme très éveillée qui avait quand même une forte personnalité. Donc, très jeune, elle a dû se prendre en charge. Et à l'époque, c'était le protectorat espagnol. Donc, elle a travaillé et elle avait des amitiés donc espagnoles. Elle parlait l'espagnol couramment, comme le dialecte marocain. Et mon père, pareil, puisque lui est originaire de Melilla, qui est toujours
Mélina.
une ville qui appartient à l'Espagne. Je pense que je dois avoir derrière aussi des origines hispaniques. Ce sont des choses que je sens à l'intérieur de moi et peut-être même des origines juives marocaines. Quand je regarde certains livres anciens et par rapport à certains récits que racontaient mes parents, quoi. Oui, par la suite, je veux dire, les Juifs ont toujours été je veux dire, au Maroc, ce qui est bien et qui est toujours d'actualité. C'est une communauté juive marocaine qui a toujours été chez eux et vivent. Il y a pas de racisme à ce niveau-là. Donc, comme je suis d'origine berbère, et les berbères, c'est cet esprit de liberté. Et le départ de papa vers la Belgique, au départ, n'a pas été une raison économique. Les Berbères se sont battus pour l'indépendance du Maroc et n'ont pas été mis à l'honneur à l'époque par rapport au régime dans lequel ils vivaient. Et papa était à la recherche d'un pays de liberté.
De liberté.
Voilà. Donc voilà un petit peu l'histoire de mes parents. Donc maman a été une femme qui s'est assumée très jeune et qui a choisi son mari parce qu'elle était devenue commerçante. Donc elle avait un commerce et elle circulait en train. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré mon père. Donc et elle a toujours eu cet amour des enfants, elle nous l'a toujours exprimé. Et c'est ce manque de ne pas avoir l'amour de sa maman. C'est un amour qu'elle a toujours donné à ses enfants, malgré qu'elle avait 12 enfants. Elle m'a toujours dit, surtout vers la fin, parce qu'elle a eu quand même 11 ans de longue maladie suite au décès de papa. Et là, j'ai pu me rapprocher de ma maman. D'abord de mère à fille, et puis de femme à femme, et puis vers la fin, ça s'est même inversé. J'étais devenue un peu la maman de ma maman. Donc là, elle m'a dit, moi, mes enfants, je m'adapte à eux en fonction de leur personnalité. Je ne peux pas te parler à toi de la même manière que je parle à ton frère. J'ai 10 doigts et en fonction de chaque doigt, en fonction, tous nos 10 doigts ne se ressemblent pas et en fonction de mes 10 doigts, je m'adapte en fonction de chacun et de vos personnalités. Voilà. Et donc voilà, je suis née ici en hiver, en 66. Je suis la première à avoir vu le jour ici en Belgique parce qu'avant ça, il y a 6 frères et sœurs qui sont nés au Maroc et qui sont arrivés donc en Belgique. Et alors les 5 autres sont nés ici en Belgique et je suis plus ou moins celle du milieu.
Celle du milieu, d'accord.
Et donc il y avait 2 groupes dans notre famille, le groupe des petits et le groupe des grands. Et je n'ai jamais fait partie, ni vraiment de l'un, ni vraiment de l'autre. Peut-être un peu marginale. Mais maman s'est toujours intéressée à l'art. J'avais déjà été voir des expositions avec elle, une manufacture au Maroc. Nous avons rencontré là-bas des femmes qui tissaient. Parce que comme quand j'étais en supérieur, j'avais commencé la tapisserie. Elle voulait me faire découvrir les femmes au Maroc, le tissage. Et j'ai rencontré là-bas des femmes dont c'était leur gagne-pain, mais dans une grande simplicité, qui nous ont fait du thé, qui ont chanté, où on a partagé quelques heures très vivantes et tout ça dans la simplicité. Et j'ai vécu dans une famille de manière très simple, mais nous ne sommes pas riches. Papa était un homme courageux, maman aussi, elle devait s'occuper de ses 12 enfants, mais où on communiquait. Et au début, petite, j'étais pas quelqu'un qui s'exprimait beaucoup, mais qui a toujours été attentive et dans l'observation. Et une enfant qui est là, présente, mais qui regarde, qui écoute, qui observe. Et je dois dire que c'était en première primaire. J'ai d'abord fait une première primaire où on m'a installée dans le fond d'une classe, où j'ai eu affaire à une enseignante qui m'a complètement oubliée. Et à chaque fois que je voulais intervenir en classe, j'étais là sans exister. Et puis, je regardais ce qui se passait par la fenêtre. Et à la fin de cette année-là, on a dit à ma maman qu'on devait me mettre dans une école spéciale. Maman n'a pas écouté cette enseignante. C'est la première discrimination que j'ai vécue étant jeune. Et maman ne l'a pas écoutée. J'ai recommencé ma première primaire dans une autre école. Dans une école, j'étais à ce moment-là dans un enseignement communal et j'ai été dans un enseignement catholique. Et comme maman avait des amis quand elle travaillait jeune pour des sœurs et des familles à l'époque aisées espagnoles au Maroc, elle avait bien compris que la religion catholique et musulmane avaient la même racine et les mêmes. Et donc là, j'ai recommencé ma première primaire. Et je suis tombée sur une enseignante extrêmement bienveillante avec moi, qui avait toujours un petit 10 heures pour les enfants qui n'avaient pas leurs 10 heures, et qui m'a permis de dessiner. Et elle mettait les dessins des enfants au mur et les exposait. Et peut-être que c'est à partir de là. Peut-être que c'est ça qui a été pour moi
L'étincelle.
Quelque chose qui, à l'intérieur, m'a habité et m'a donné envie de m'exprimer à travers le dessin. Et puis, suite à cette première année, ben, j'ai terminé avec 99%.
Ouf.
Et donc là,
Bravo.
ça a été une grosse claque par rapport à l'année d'avant où on disait que j'étais une enfant à mettre dans une école
Spécial.
spéciale. Et donc, je pense que ça a été la première discrimination que j'ai vécue au niveau de mon parcours d'enfant. Mais j'étais déjà une enfant très sensible parce que malgré qu'il y avait d'autres enfants, j'ai toujours été accrochée à ma maman. Donc, il y a eu deux autres enfants qui sont nés après moi. Mon petit frère, Brahim, qui est venu 2 ans après moi, puis il y a eu Assia qui est venue 1 an après Brahim. Et bah, de ce qu'on me dit, j'ai toujours été quelqu'un qui est en demande d'affection. Donc, allez. J'ai le manque de mes parents, puisque j'ai perdu mes deux parents. Maman est décédée à 17 ans, j'avais que 39 ans. Et j'ai perdu mon père 1 mois après mon mariage. Et j'avais à ce moment-là 27 ans. Et donc, mais je ne suis pas quelqu'un qui, en tout cas, en manque, qui peut dire qu'il a manqué d'amour de ses parents. Personnellement, je ne sais pas parce que je n'ai pas le témoignage de tous mes frères et sœurs, mais ils m'ont donné l'amour qu'il fallait et je n'ai jamais ressenti de manque affectivement concernant mes parents. Là, c'est juste un manque parce qu'ils ne sont pas présents et que. que j'ai vécu quelque part un peu la même, que mes enfants, d'une certaine manière, ont vécu un peu la même histoire que moi. Moi, je n'ai connu que mon grand-père maternel et mes grands-parents du côté de papa. Déjà, ma grand-mère maternelle, elle a été vivante dans mon esprit qu'à travers le témoignage de maman. Oui. Et concernant mes grands-parents paternels, eux, je ne les ai pas connus vu qu'ils sont décédés avant que je ne vienne au monde. Et je dois dire que mes enfants, les deux premiers, ont connu juste maman. Et mon grand-père, mon père était déjà décédé avant que j'aie eu mes enfants. Donc, je pense que de manière généalogique, il y a des choses qui se retransmettent d'une certaine manière. J'ai souvent été attirée par des livres sur la psychologie et sur la transmission. Oui. Des choses qui des choses quelquefois que l'on ressent et des fois pour lesquelles on n'a pas de réponse mais que l'on découvre à travers certains témoignages
oui tout à fait
que l'on hérite d'une certaine manière.
Et justement sur le plan donc quand tes parents ont vu que très jeune tu avais cet attrait pour l'artistique, est-ce que ils n'ont pas, ci et là, essayé de mettre des freins, de te dissuader, ou au contraire, ils t'ont peut-être même juste encouragé à aller plus loin?
Au début, c'était un peu compliqué parce que quand j'ai voulu faire des études artistiques, il y avait deux choix qui se présentaient à moi. Je voulais faire soit du théâtre ou soit aller devenir, je vais dire, le milieu pictural. Et donc, maman avait une idée très claire du théâtre. Pour elle, c'était un milieu un peu trop libre. Et malgré tout, j'ai été éduquée quand même avec certaines valeurs. C'est-à-dire que, je veux dire, dans c'est pas simplement dans les familles musulmanes, mais dans les familles chrétiennes, et puis même des amis autour de moi, belges ou italiennes ou espagnoles, les filles étaient quand même assez protégées dans le sens où on n'avait pas les mêmes libertés que les garçons, parce qu'un garçon, bon, bah, il sait se défendre. Donc, les sorties au début, bon, bah, on allait à l'école, on rentrait. Et puis, quand on a vécu à Etterbeek à un moment donné où il y avait beaucoup de familles, parce qu'on habitait dans un bloc où il y avait des familles espagnoles, italiennes, espagnoles, et il y avait une très belle inclusion dans ces époques-là. Et c'était le plus grand qui organisait les activités pour les plus jeunes. Mais par la suite, quand il a fallu faire un choix, je dois dire qu'il y a eu une période où j'ai été une adolescente assez révoltée. Je dirais même très révoltée par rapport à certains de mes frères et sœurs. Le côté observateur et tout ça, mais aussi des colères de dire où j'exprimais que je voulais faire voilà ce que j'avais envie de faire. Donc je dois dire que mes parents ont dû céder et maman a accepté les études artistiques, papa malgré lui, parce qu'elle elle sentait chez moi ce besoin d'expression très fort. Donc ils ont fini par céder, mais en rigolant. Elle disait, parce qu'elle s'exprimait bien en français, mais avec son langage, elle disait « Maman, ma fille va à l'Académie des Beaux-Arts ». Au lieu de dire « Ma fille va à l'Académie des Beaux-Arts », elle disait « Ma fille va à l'Académie des Beaux-Arts », parce que pour elle, les artistes, voilà. Elle avait une vision quand même des artistes ils sont pas, comme les autres, quoi.
Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais.
Voilà. Mais.
Oui, ouais, donc quand même, il y avait peut-être cette crainte qui reste bienveillante, peut-être parce qu'ils pensent plus à un côté plus sécurité,
oui,
d'emploi,
mais...
etc. Oui,
oui, c'est, oui, voilà.
C'est ça.
Au fait, pour eux, sachant que il y avait des difficultés dans la vie, mm-hmm. C'était de se dire, on veut que notre fille puisse par la suite vivre et pouvoir avoir un métier dans lequel, mm-hmm. et il est vrai que le métier artistique est encore d'actualité, si tu viens pas, c'est vrai qu'en allant à l'Académie Royale des Beaux-Arts, moi, à l'époque, il y avait un peu des personnes venant de tout horizon, mm-hmm. mais il y avait aussi des personnes qui venaient d'un milieu un peu bourgeois et où par la suite, évidemment, des portes se sont plus facilement ouvertes mm-hmm. pour eux au niveau d'un travail.
Ouais.
Et, nous... Et mmh. j'en ai déjà discuté avec une amie, mmh. Avec deux autres amies avec lesquelles je suis restée en lien, où il y a eu des moments où on ne se voyait plus, mais on s'est retrouvés. C'est de se dire que nous, les artistes, on peut très bien parler de l'art de quelqu'un d'autre, mmh. mais parler de soi et se vendre soi, mmh. ça reste quelque chose de plus compliqué. Parce que là, ça touche une part aussi du conscient, inconscient, et puis, mm-hmm. puis je ne sais pas si c'est la pudeur, ou, mm-hmm. mais bon, je veux dire, m'exprimer par rapport à une œuvre de quelqu'un d'autre, j'aurais beaucoup plus de liberté. Mm-hmm. Et puis, en ayant fait des études d'histoire de l'art, je me suis bien rendu compte que il y a beaucoup d'interprétations et, mm-hmm. et chacun exprime ou traduit ou, mm-hmm. en fonction de son propre ressenti. Est-ce que Van Gogh, à l'époque, avait bien pensé à ça ou ça ? Mm-hmm. Ce sont les historiens, par la suite, qui ont mis des mots sur mm-hmm. ce qu'ils ont vu. Et puis, je dirais que ce n'est qu'à partir du 19e siècle que les artistes ont commencé à vivre vraiment de leur art.
Exact.
Avant ça, la plupart d'entre eux, à travers mmh. ce que j'ai étudié, mmh. Sont morts quelquefois très pauvres et, mmh. Leurs œuvres ont pris une cote mondiale post-mortem.
Ah,
donc,
c'est ça. Mmh.
Voilà ce que j'ai pu constater. Et il est vrai que quand je me suis mariée, je ne me suis pas mariée avec quelqu'un qui était de mes origines. Mm-hmm. Mon ex-mari est belge, mm-hmm. d'origine belge. Mm-hmm. Ça a été aussi quelque chose d'assez compliqué dans la famille parce que j'avais choisi quelqu'un... en fonction de mes sentiments et ressentis. Mm-hmm. C'était un musicien autodidacte, donc c'est pas le même art, mais c'est le même langage. Donc on mm-hmm. avait des sensibilités, des choses différentes, et en même temps des langages communs. Donc c'est peut-être ça qui m'a... souvent, c'est un peu comme dans les amitiés, je vais vers les personnes... que je sens.
Mmh, mmh.
C'est mon intuition et mon sixième sens qui me fait aller. Des fois, je me dis qu'on rencontre des gens par hasard, et puis par la suite, je me dis qu'il n'y a pas toujours de hasard. C'est la vie qui attire vers toi ce que tu projettes ou ce
oui,
que
c'est
tu
ça.
Cet autre langage qui doit être toujours très parlant, quoi.
Mm-hmm.
Mais c'est vrai que c'était compliqué pour mes parents d'accepter le fait que
mm-hmm.
qu'une de leurs filles voulait faire des études artistiques. Puis par la suite, j'ai découvert, j'ai une cousine qui est artiste aussi, qui est artiste peintre. Elle habitait l'Angleterre, maintenant elle habite en Afrique, noire. Elle s'est mariée là-bas. Ah, et elle enseigne là-bas, donc voilà. Donc il y a des migrations qui se font encore ailleurs, et je pense que, et c'est ce que j'ai toujours pensé de ma maman, je le lui ai dit à un moment donné, parce qu'on avait déjà été voir des expositions et elle ressentait bien ce qu'elle voyait, je crois qu'elle s'est peut-être muselée elle-même, je n'en sais rien. Le fait d'avoir eu de nombreux enfants, donc ces journées étaient déjà bien remplies. Mais plusieurs d'entre nous, on lui a dit, maman, tu es quelqu'un d'assez avant-gardiste dans ta manière de penser, papa aussi. Et c'est dommage que tu n'aies pas pu l'exploiter à travers l'écriture ou une forme d'expression, parce que... elle ne savait ni lire ni écrire, mais était une femme très intelligente. Et je me suis rendu compte que l'intelligence, ce n'est pas les études. L'intelligence, c'est quelque chose comme ça, d'inné. J'ai rencontré dans ma vie des personnes qui n'ont pas de bagage, je veux dire des fois social. Mais qui sont souvent des fois plus intéressants que des personnes qui ont un parcours académique ou scolaire
et théorique.
Voilà, je ne sais pas si, si c'est pareil pour toi, mais voilà. Il y a beaucoup de choses à dire.
Moi, j'apprécie beaucoup aussi les personnes qui partent d'un vécu, d'une expérience, plus que d'une personne qui va commencer à me parler de toutes ses connaissances livresques, mais sans saveur, finalement.
Oui, c'est ça.
Je pense que c'est vraiment ça. Et justement, et puis moi, je suis une personne qui ne va jamais juger par l'extérieur. Donc c'est vraiment au moment où, justement, d'un partage, comme nous maintenant, que je découvre... Et puis après, j'essaie d'en savoir le moins possible à l'avance, parce que peu m'importe, finalement.
Oui, c'est vraiment... Donc, mais c'est pareil. Quand je regarde quelqu'un, je le regarde plutôt de l'intérieur qu'une apparence physique.
Exact.
L'intérieur me parle beaucoup plus. Souvent, c'est comme ça que je fonctionne dans ma vie.
Zineb, je voulais également te poser une question. Tu nous as parlé de discrimination. Donc, ta première discrimination, tu as dit, c'était en première primaire, lorsque cette institutrice t'a dit, ben voilà, Zineb doit aller dans une école dite spéciale. Tu as utilisé le mot discrimination. Pourquoi l'as-tu vécu comme une discrimination ? Est-ce que c'était pour toi une discrimination due à tes origines ou non ? C'était plus parce que tu étais en décalage ?
Au fait, je n'en sais rien. Mais le simple fait de ne pas avoir été à ce moment-là, on est très jeune, on a quoi, 6 ans quand on est en première primaire, et de ne pas avoir été reconnu en tant qu'enfant et isolé et déjà placé dans le fond de la classe, de vouloir dire, bah, écoute, moi aussi je suis présente là. C'est pas à ce moment-là que j'ai mis un mot de discrimination. Mais en étant petite, souvent, qu'est-ce qu'on retient ? Ce sont les événements marquants de notre vie. Et ça, on les retient bien. Donc ça a été un moment très marquant pour moi parce que ben, j'étais oubliée, quoi. Donc plus tard, quand vous grandissez et qu'on vous explique c'est quoi la discrimination ou voilà, ben, vous vous dites à ce moment-là, à ce moment-là, je peux peut-être mettre le mot discriminant sur cette situation vécue petite.
C'est
Mais
ça.
là, toute petite, il
Non, bien
n'y a pas
sûr.
de mot qui se met, on ne sait pas ce qu'on vit, on sait juste qu'on est là et voilà.
Et a posteriori, justement, tu te dis que le fait d'être mise comme ça au fond de la classe, c'était dû à... Y avait-il d'autres
Mais
enfants d'origine
disons
dans
qu'à
ta classe?
cette époque-là, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Parce que, comment dirais-je, mes parents sont venus, mon père est venu dans les années 63. Maman l'a rejoint 2 ans après. Et moi, je suis venue en 66.
Exact.
Et donc, 66 plus 6, doit faire 73. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore énormément de familles marocaines en Belgique parce que la plupart se connaissaient. Il y en a, en tout cas, on avait des amitiés. Mes parents avaient des amitiés. Ouais, il y en a un qui habite Saint-Gilles, l'autre qui habite Ixelles. Et ils se retrouvaient. Il n'y avait pas de commerce marocain. Il n'y avait pas pour manger halal à l'époque. Bah, mon père travaillait à la STIP, il avait des collègues qui étaient des bourgs, qui avaient des fermes, et donc il allait chercher un coq, un lapin, et il sacrifiait, et c'est comme ça qu'on se nourrissait à l'époque. Il n'y avait pas de.
C'est ça.
Et puis quand ils partaient au Maroc en voiture, ils ramenaient avec eux à l'époque. Des féculents, du riz, pas du riz, mais des lentilles, du pois chiche, des haricots. Il y avait certaines denrées de la menthe que l'on faisait sécher, ou même ce qu'on appelle chez nous le qadit, c'est de la viande salée
Et séché.
et séchée, avec lequel on pouvait faire. Maman pouvait faire des plats, et puis par la suite, papa a découvert qu'il y avait des boucheries cachères, et donc on mangeait cachère, quoi.
C'est ça. Ouais, tout à
Donc
fait. On s'adapte.
voilà, on s'est, je veux dire, mes parents se sont adaptés comme ça. Et puis après, a commencé les premières discriminations que j'ai vécues à travers le parcours de mes frères et sœurs, quoi. Moi, j'ai eu un de mes frères qui a dû, mais vraiment, se battre pour terminer ses études, quoi. Et qui pourtant, parce qu'il y a un ami qui est devenu un ami commun avec moi, ou qui m'a dit, ton frère, c'était une tête à l'école et qui a dû vraiment se battre pendant toute sa scolarité pour terminer ses études d'ingénieur, quoi. Et où il y a eu maman qui était derrière lui, et puis il y a eu un parcours d'un frère qui a fait de la prison, ou à un moment donné, quand on terminait les années primaires, c'était d'office les professionnels parce que il fallait, comme les familles italiennes, espagnoles, on était des main-d'œuvre et pas des êtres pensants, donc il
Exact.
fallait continuer dans cette voie-là. Donc on n'était pas encouragé à faire des études. Et maintenant, avec le recul, je me dis qu'il y a eu une partie de cette génération qui a été sacrifiée,
Été
quoi.
sacrifié.
Et qui soit ont sombré dans la drogue ou n'ont pas pu terminer leur parcours, ont épousé des filles ou des garçons qui ont été cherchés au pays, qui
Ouais,
n'ont
c'est
pas
ça.
eu le même parcours, les mêmes vécus, et donc il y a eu des mondes différents qui n'ont pas pu se rejoindre, et voilà.
Ouais, tout à fait, tout
Et
à fait.
ça reste, je veux dire, maintenant, le souci de la jeunesse, Actuellement, et c'est ce que, ça c'est mon avis à moi, y avait, y avait à l'époque où, quand mes parents habitaient à Etterbeek, une amitié que mes parents avaient eue, où, où on voulait, par la suite, maman l'a pas compris tout de suite, mais le but c'était de que l'on devienne chrétien. Donc cette personne apportait, aidait la famille à Noël, apportait des présents, mais c'était avec le recul vouloir vouloir
faire du prosélytisme.
Voilà, pour que l'on devienne et comme mes parents était un peu dans le fond on ressemble d'une on hérite de ce qu'on nous a donné et comme mes parents ont toujours eu des amitiés malgré tout diverses espagnoles, italiennes et que n'était pas rien que dans un esprit de créer un ghetto
voilà.
Donc n'avait pas vu que le but était aussi de que l'on devienne peut-être chrétien ou je ne sais pas donc voilà et la difficulté actuellement des enfants de cette génération-ci ben c'est cette pandémie qui a isolé et puis puis il y a des mouvements d'extrême droite qui sont occupés à faire des crépuscules un peu partout, la crise économique, cette crise mondiale qui est occupée à s'implanter partout, les guerres, et on est dans une période très trouble et on va vers des moments difficiles. J'en suis pleinement consciente, quoi, que la société dans laquelle on est, y a d'une certaine manière beaucoup de valeurs qui se sont perdues. Et y a quelque chose à devoir reconstruire ou à construire. Mais en tout cas, on est dans un tournant de vie où il y a des choses qui sont éclatées et qu'il faut et des valeurs vers lesquelles on doit revenir ou sinon si on a certaines valeurs en soi on va essayer de les retransmettre à nos enfants tant bien que mal. Mais les enfants comme m'a dit un jour ma sœur qui n'a pas d'enfants m'a très bien dit les enfants ne t'appartiennent pas. Un jour ou l'autre, ils vont prendre leur chemin et peut-être qu'ils vont faire des choses que qui sont pas tes rêves à toi et que tu devras que tu devras accepter parce que c'est chacun sa vie et chacun son chacun ce qu'il veut créer dans son parcours de vie. Mais c'est vrai, il y a des choses qui nous ont handicapés.
C'est sûr.
Et c'est vrai que par rapport à d'autres d'autres personnes venant d'autres milieux. Ben, au lieu de faire un pas ou deux, ben, il faut en faire énormément. En espérant que. Donc, des échecs, il y en a eu, et il y en a eu, et il y en aura. Donc, sauf qu'on est à l'intérieur plus armé.
Oui,
et que ça nous touche moins. Parce qu'on s'est créé. Une carapace.
Oui, tout à fait.
Et que l'on laisse, que l'on se crée une carapace et qu'il y a certaines choses que l'on qu'on laisse plus passer, quoi.
C'est sûr.
Et que l'on peut dire ce qu'on veut, ça glisse. Alors qu'avant non. Voilà, je pense que je serai quelqu'un qui aura toujours cette sensibilité. Mais il y a en même temps chez moi la sensibilité que l'on peut dire, parce que certains la définissent comme de la faiblesse, mais en contrepartie, une femme forte aussi.
Voilà.
Parce que j'ai dû vivre des situations que je ne témoigne pas, que je n'ai pas encore témoigné ici. J'ai vécu des situations très difficiles dans ma vie qui ont fait que je n'avais pas d'autre choix que de me relever. Et être par terre, je sais ce que c'est. Mm-hmm. Quand tu es par terre et que mm-hmm. Tu es dans une situation où tu n'as plus aucune... la seule chose, c'est de te relever et de remarcher. Mm-hmm. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai eu la chance quand même d'avoir... même si ma famille n'était pas toujours avec moi, mm-hmm. mais d'avoir des personnes quand même éclairantes qui me disent, mais t'as les pieds sur terre. Mm-hmm. Imagine-toi que tu es dans l'eau et t'as les pieds sur terre. Mm-hmm. Ben, marche, mm-hmm. on nage jusqu'à la rive. Mm-hmm. Et ma sœur me disait, ben, imagine, même une plante dans un désert, mm-hmm. même s'il n'y a pas d'eau, certaines plantes trouvent le chemin pour s'épanouir et sortir. Ben, l'être humain, c'est peut-être des métaphores, mais voilà de cette manière-là. Mm-hmm. L'important, c'est toi, tes enfants, parce que quelquefois, l'idiotie des fois de certaines femmes, mm-hmm. c'est de voir un homme comme un tout et de se dire, il va tout me donner, il va tout... m'apporter parce que étant jeune je lisais les contes de Grimm, d'Andersen, mm-hmm. les contes Perrault et l'histoire se termine, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, mais la suite ils n'ont pas parlé des divorces, on s'est arrêté là à l'histoire. Et donc je crois que beaucoup de petites filles, même venant d'origines différentes, parce que les contes africains, j'aimais beaucoup les lire aussi. Ben, la petite fille, elle se voit princesse. Voilà. Elle se voit un jour devenir une princesse. C'est vrai. C'est pas la définition de la princesse avec diriger un pays, c'est pas ça, mais c'est la petite fille qui éclore, qui devient une très jolie fleur et qui et voilà. Mm-hmm. Et mm-hmm. la vie, c'est malheureusement elle est beaucoup plus cruelle et c'est pas ça.
Et est-ce que justement l'art, toi qui t'exprimes, qui a cette chance de pouvoir peut-être quelque part par la créativité, l'artistique, peut-être plus facilement échapper.
Mais l'art est libérateur.
Voilà.
Et l'art est libérateur et l'art est un pansement.
Voilà.
Et je pense mm-hmm. que ça, oui, j'en suis pleinement consciente mm-hmm. parce que il y a eu toute une période où j'ai dû travailler, où j'avais accepté un travail alimentaire. Parce qu'il n'y avait que ça qui se présentait à moi il faut élever des enfants, il y en a trois. Et donc, j'avais complètement oublié que j'étais une artiste. Donc, pendant 10 ans, je n'ai plus touché ni à un crayon, ni à... Il y a eu un moment donné de ma vie. Et puis après, j'ai vécu un harcèlement au niveau du travail. Où là aussi, en fait, je me suis retrouvée dans un travail qui était alimentaire et pas nécessairement avec des personnes qui étaient à la hauteur de ma spiritualité, de je ne sais pas comment dire ça, de mes qualités intérieures, voilà. Mm-hmm. Pas le même langage et dans un milieu un peu, voilà. Et vous faites avec parce qu'il faut vivre. Mm-hmm. Mais bon, à un moment donné, vous fermez votre bouche.
Mmh, c'est ça.
Vous fermez votre gueule, tout simplement. Mmh. Et puis, quand ça va trop loin, et j'ai résisté très très longtemps, malgré des situations où je voyais bien que j'étais utilisée ou exploitée, ou où on me donnait le travail de l'autre, ou des choses comme ça, mais tu te dis... il y a la marmite à devoir, il y a le loyer à devoir payer, et tu supportes. Et puis à un moment donné, quand on a voulu inverser, parce que je crois que tous les directeurs, je les ai tous vus, à chaque changement de directeur, je devais, pour un prétexte ou l'autre, j'étais convoquée, me demandant même qu'est-ce que j'avais bien pu faire. Et j'ai dû défendre même ma période d'essai.
Ah, oui.
où je l'avais bien défendu. Et puis à un moment donné, quand l'harceleur t'accuse que c'est toi l'harceleuse, ouf, tu te dis non, c'est trop là. Et du jour au lendemain, je n'ai plus retourné. Il m'a fallu un an pour porter plainte, parce que ça m'avait laissé dans un état où je n'arrivais même plus à parler. J'étais dans un bégaiement. Et là, il a fallu faire appel à un professionnel et aller voir un psy. Parce que ça avait été beaucoup trop loin au niveau de cette manipulation psychologique. Et puis, ça m'a rappelé aussi certains événements dans un mariage aussi, parce que je dis pas que j'avais un mari manipulateur, mais il y a eu des petites phases de manipulation à un moment donné, et ça reste toujours d'actualité, les hommes aiment bien porter la culotte. Et souvent, quand un homme... je suis une femme très gentille, assez douce, mais j'ai aussi ma personnalité. Je sais ce que je veux et comment... à un moment donné, quand un homme voit qu'une femme... Il y a certains hommes qui n'aiment pas les femmes, qui n'aiment pas du tout les femmes... je le découvre maintenant que certains hommes, dès qu'ils découvrent ça chez toi... Ils ont peur. Ils ont peur de ce style de femme-là, donc c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et puis j'ai autour de moi des amis qui ont vécu des situations où certaines ont résisté longtemps. Et j'ai tiré longtemps moi aussi. Parce que j'avais mes enfants. Voilà. Mais ça a quand même fait des dégâts sur les enfants, sur moi. Parce qu'après, il faut se reconstruire. Et là, maintenant, je vais dire, c'est vrai, je n'ai pas encore trouvé un travail dans lequel je peux m'épanouir. Je ne travaille pas, je suis en maladie. Mais ma vie est occupée avec mes petits-enfants et un tas d'activités en tant qu'activiste, en tant que femme prévoyante socialiste, un peu dans la politique, et puis des petits voyages, et puis dans des actions que je fais de manière... dont je ne parle pas quelquefois.
C'est ça.
Je veux dire, aider quelqu'un des fois dans des conseils, dans des aides, mais un aspect sur lequel j'ai pas trop envie de développer, parce que c'est mon petit jardin secret et qu'on n'a pas envie de raconter ces choses-là,
Mais en tout cas, oui. Et donc, tu disais, l'art est un pansement. C'est beau, je trouve, de dire ça. C'est que c'est vraiment très important, quand même, dans ta vie.
Oui, ça, je pense que, consciemment ou inconsciemment, pour beaucoup d'artistes, l'art est un pansement. Parce que y a eu des personnes, par exemple... qui ont vécu des maladies, et encore actuellement il y a un membre de ma famille qui se bat contre un cancer, mon ami. Et ça, je l'ai compris à travers la maladie de maman, et à travers certaines lectures. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et donc tout ce qui s'exprime pas s'imprime, et puis à un moment donné, si tu ne l'exprimes pas, c'est ton corps qui l'imprime. Et donc il y a des maladies qui se greffent dessus. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris il y a 17-18 ans de ça. Je l'ai très très bien compris à travers la maladie de maman, parce qu'elle a... Elle a voulu se montrer courageuse et courageuse dans sa vie. Donc, à l'époque, les gens, n'allait pas voir un psy, ne s'exprimait pas à travers un sport, à travers l'écriture, à travers la comédie, à travers la marche. Enfin, je veux dire, chacun peut trouver une manière d'expression. Ouais. Mais l'expression reste quand même quelque chose d'extrêmement important dans notre société. Déjà, c'est une autre manière de communiquer, de communiquer ce que l'on aime. Mais l'expression communique aussi des idées. et des idées, ça n'est pas rien au niveau de politiquement ou spirituellement ou raconter son histoire à travers un dessin ou à travers une pièce de théâtre ou à travers ou l'écriture ou chacun met la communication et l'art dans tous ces langages reste quelque chose quand même de fort et de très important dans une société. Et la culture, pendant toute cette période de la pandémie, a été une grande frustration pour moi. Parce que je ne pouvais plus aller au cinéma, je ne pouvais plus aller voir une pièce de théâtre, je ne pouvais plus, déjà socialement, voir des amis. Et heureusement qu'il y avait les moyens sociaux, ou le téléphone, ou pour pouvoir continuer à communiquer. Et là, on a pu même communiquer à travers la dérision, quoi.
Tout à fait.
Et là, au début de cette pandémie, y a eu le moment de peur, et après, y a eu des moments de fou rire avec, avec même l'éloignement. Et puis, on s'est découvert à faire des pâtisseries, du pain.
Oui, trouver des moments.
Parce que, voilà.
Le temps était peut-être suspendu, une parenthèse finalement enchantée en même temps. Que des moments évidemment qui n'étaient pas faciles, mais et à travers ton art justement, est-ce que tu estimes que c'est un art engagé, un art où tu exprimes, tu dénonces des choses, tu fais passer un message, ou bien c'est vraiment plus voilà, tu te lâches, c'est un moment pour toi de
Je ressens que je ne me suis pas encore tout à fait lâchée. Et il y a encore du contenu, mais j'y travaille.
D'accord.
Ça pourrait aller plus loin. Au début, j'ai commencé à peindre des villes, parce que la ville, c'est les lieux dans lesquels on vit. Mais des villes stylisées. Puis à un moment donné, c'était des portes. Parce que les portes, c'est un passage. Le passage d'une histoire à une autre histoire. Je dois dire que, curieusement, ça a été certaines œuvres, ce sont celles-là qui sont parties, que j'ai vendues. J'en ai vendu quelques-unes, mais c'est cela. Après, y a eu quelques femmes berbères. Il y en a une qui est partie, que je n'ai plus. Parce que d'origine berbère, là je suis y a eu des moments où je voulais coudre dans de la toile, parce que c'est un peu comme on coud sa vie. Il y avait cette démarche là aussi. J'aime bien la peinture, mais j'aime bien la tapisserie aussi, donc les dernières, il y a de la couleur, mais il y a aussi du tissage. Donc je suis dans les deux. Mais j'ai l'impression que je me raconte.
C'est ça.
Je suis une personne qui aime malgré tout ce qu'elle a vécu de choses difficiles, j'aime la lumière et j'aime aller vers le rayonnement. Et pas vers le sombre. Et il m'a fallu longtemps pour instaurer du noir, d'utiliser la couleur noire dans dans de la peinture. Maintenant, je l'utilise. Le noir, pour moi, c'était tout ce qui est sombre. Mmh. Et c'était une couleur que je n'aimais pas. Mmh. Maintenant, je l'utilise parce que je lui donne une autre symbolique. Mmh. Mais sinon, les couleurs, oui, je suis une amoureuse des couleurs. Et j'aime toutes les couleurs. Mmh. C'est vrai que je suis peut-être habillée en noir aujourd'hui. Mmh. Mais il y a eu un moment donné où... il y a eu un moment où je portais moins les couleurs. Maintenant, je les ose toutes.
Ah, oui.
Donc, peut-être en fonction d'une saison, j'en sais rien. Mmh. Mais maintenant, j'aime porter toutes les couleurs. Mmh. Ça peut être du rouge, du vert, du noir, du... Parce que je me suis retrouvée.
Voilà.
Mmh. Et il y a eu toute une partie, il y a eu tout un moment où il y a des amis où j'ai connu avant mon mariage, machin. Mmh. Et puis à un moment donné, il y a des gens qui m'ont dit, Zineb, on ne te reconnaît plus. Toi qui as toujours été quelqu'un d'extrêmement joyeux. Mmh. Il y a eu un moment donné où j'avais perdu ma joie de vivre. Mais ma joie de vivre, je l'ai perdue aussi à travers des chocs de vie. Mmh, mmh. La perte de mon père, maman, mon ami, mon petit frère que je chérissais dans des contextes très brutaux pour certains. Et voilà. Mmh. Et donc, par rapport à ça, même vis-à-vis de la mort, maintenant, je l'appréhende différemment aussi. Mm-hmm. C'était quelque chose qui me faisait peur. Mm-hmm. Ben non. Mm-hmm. Maintenant, la mort, la vie, elles sont l'une à côté de l'autre.
C'est ça.
Et quand je veux en parler avec certaines personnes, je vois que c'est très fermé. Donc, là... C'est difficile d'en parler, et puis avec d'autres, j'en parle comme on parle de la vie.
C'est ça.
Mais c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder avec tout le monde. Parce que...
C'est vrai. Voilà. Et tu le retrouves dans tes peintures, tu dis. Donc ce côté justement plus joyeux, de nouveau. Donc ça retentit dans...
Au fait, je me suis remise à peindre. La première fois que je m'étais remise à peindre, c'était au moment où mon ex-mari, on était dans un moment où on était plus ensemble, on habitait encore dans le même espace, oui. Lui au-dessus, moi en dessous. Mmh. Et je m'étais justement blessée au niveau... je marchais avec une béquille. Mm-hmm. Et j'ai une amie qui était venue chez moi et qui m'a dit, mais enfin, Zineb, parce que j'avais fermé mes tentures. Elle savait que quand ça n'allait pas, je mangeais moins bien. Parce qu'il y a eu des petites périodes aussi un peu d'anorexie à un moment donné. Mm-hmm. Puis elle m'a dit, écoute, t'es une artiste. Tu dois avoir de la couleur en bas chez toi, un chevalet. Je vais aller te le chercher. Et puis elle est partie me chercher une toile en bas, un chevalet. Et puis 2 jours après, elle est venue. Et j'avais commencé. Et moi-même, j'ai été surprise. Ah. J'ai regardé et puis elle me dit, on ne voit pas ce côté sombre chez toi. Tu n'as pas exprimé dans cette toile ta douleur et ta tristesse. Mm-hmm. Tu as exprimé, il y a du jaune, oui, peut-être légèrement là, mais le reste, tu n'as pas...
Oui.
Le côté douloureux ne s'est pas...
Oui, n'est pas marquant, en tout cas.
N'a pas été marqué sur cette toile, sur cette toile-là, que j'ai toujours chez moi, à la maison,
d'accord.
Au-dessus de ma cheminée. Qui, voilà, Et là, petit à petit, se dire, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que je faisais de la peinture. Et puis petit à petit, on s'y remet. Mm-hmm. Voilà.
Mais en tout cas, Zineb, écoute, en tout cas, on arrive à la fin de ce très, très beau témoignage, vraiment d'une femme, en tout cas, très inspirante, très résiliente. Et vraiment, j'espère que... que ce parcours artistique, en tout cas, pourra en tout cas en inspirer d'autres et parfois
c'est ce que je voudrais.
Voilà.
Franchement, c'est ce que je voudrais.
Et c'était un peu la question que je voulais te poser pour terminer. Si tu pouvais donner un conseil à tes suivantes, lequel serait-il?
Bah, le conseil que je donnerais aux suivantes, c'est de faire ce qu'elles ont envie de faire. Et peu importe comment les autres le regardent de l'autre. Parce que souvent, on est dans... Et ça, c'est comme ça, c'est dans toutes les sociétés, c'est pareil. C'est de créer un moule. Mmh. Et si on veut sortir du moule et exprimer ce que l'on a envie de faire, eh bien, de prendre sa liberté et de se faire confiance et de faire.
De faire, de créer.
C'est bien, c'est pas bien, peu importe. Mm-hmm. Mais c'est de faire. Mm-hmm. Parce que contenir, la plupart du temps, même à travers mes lectures, de ce que j'ai vu de proches qui ont vécu à travers la maladie, ce que l'on n'exprime pas s'imprime. Donc, faire, créer, oser, oser être soi. Et peu importe de ce qu'on pense. Parce que le blabla, il y en aura toujours. On aura sur son chemin de vie des personnes qui t'aimeront et des personnes qui te détesteront. Et des fois, tu auras des réponses pourquoi on t'aime ou pourquoi on t'aime pas, mais peu importe pourquoi on m'aime pas. C'est de se dire je m'en fous, c'est que je corresponds pas, ou que peut-être l'autre veut. Peu importe ses raisons dans le fond.
C'est sûr. Oui, c'est vrai.
Mais c'est d'être soi et d'aller et s'aimer.
Et s'aimer. Ouais.
Parce que le plus important. Et ça a été un long cheminement pour moi. Je ne sais pas quel est le tien. Mais maintenant, je m'aime.
Ouais.
Et ça, le principal dans la vie, c'est de savoir s'aimer. Parce que c'est très important. Pour pouvoir aimer, il faut s'aimer.
Il faut s'aimer.
Et pour aimer mieux, il faut s'aimer.
C'est vrai.
Et c'est ce que je... quand j'ai une fois discuté avec Noura, parce que le milieu de l'art, c'est, je t'écrase, tu m'écrases. Il y a la place pour plein de soleil dans un milieu de l'art. Et il n'y a pas de jalousie ou des trucs comme ça. Toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Et c'est pas... Et reconnaître la beauté chez les autres.
Bien sûr.
C'est important parce qu'un mot gentil que tu vas dire à quelqu'un, mais ça va peut-être lui donner du bonheur sur toute la journée. Et pourquoi pas le faire?
Bien sûr.
Ça te coûte rien.
C'est sûr.
Ça te coûte rien et
tu te fais du bien aussi.
Et tu te fais du bien.
C'est
parce
ça.
Que ouais, ce qu'on donne, la vie te le rend d'une autre manière. Et ça, je l'ai déjà vu dans certains moments difficiles. Je l'ai déjà vu. Une personne sort de nulle part. Et si tu as fait quelque chose de bien intérieurement, tu verras cette personne sortir de nulle part qui sera là pour toi. Et tu te dis, tu vois. Et ça peut être tout petit.
C'est ça. Hein. Ça peut, effectivement.
Voilà, ça peut être tout petit.
C'est vrai. Merci Zineb en tout cas.
De rien, Rosanna.
Et je te laisse maintenant retrouver tes petits-enfants.
Merci.
Et tes peintures évidemment.
Ah oui. Hein.
Super, merci.
Non, mais j'espère un jour pouvoir aller plus loin parce que je sais qu'il y a encore un petit truc et je dois le dépasser.